Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur RCF. Aujourd'hui, une émission spéciale de Ici on parlait ensemble avec, nous allons parler de politique. Et pour ce faire, je reçois Marianne Boudiou-Morel. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de politique, on va parler de trois sujets principaux. Il y en aurait tant d'autres à voir, mais on a sélectionné avec la rédaction trois sujets, donc qui sont l'intercommunalité, le désenclavement, et puis bien sûr le sujet principal aussi, c'est les présidentielles où vous allez aussi nous donner votre avis. Alors, avant de démarrer ces trois sujets, présentez-vous un petit peu à nos auditeurs. Qui êtes-vous exactement?
Tout simplement, en fait, une élue qui a présenté une liste, donc sans étiquette, aux dernières municipales, qui a été élue, et nous avons deux représentants dans le groupe Divers Droite de la ville de Digne-les-Bains. J'exerce une profession de santé, j'exerce aussi des fonctions qui sont des fonctions électives en corrélation directe avec cette profession.
D'accord, voilà. Alors on va parler de l'intercommunalité.
Oui.
C'est un sujet qui est quand même assez polémique, en tout cas sur le secteur de Digne, puisque on sent que les élus ne sont pas forcément d'accord sur la forme que doit prendre la nouvelle intercommunalité, la communauté d'agglomération pour être plus précis. C'est-à-dire c'est le regroupement de plusieurs communautés de communes existantes déjà. On sent que sur Manosque que ça avance pas mal. Pour avoir un bon vecteur, un bon secteur avec un poids important. Sur le secteur de Digne, c'est un peu compliqué. On sent que on veut raccrocher Barème, faisant partie de l'AS sur le secteur de Digne. Le Verdon ne veut pas laisser Barème. Digne, les élus ne s'entendent pas forcément sur la nouvelle enfin, la nouvelle configuration. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à des petites pertes de pouvoir qui pourrait avoir lieu, puisqu'on va du coup tout recentraliser et réélire un président et les vice-présidents et autres, ou c'est dû à autre chose?
Il y a certainement beaucoup de critères à prendre en considération, et vous l'avez rappelé vous-même, la communauté d'agglomération du côté de Manosque, elle n'a aucune difficulté. La preuve en est, c'est qu'ils sont à plus de 60 000
Voilà.
habitants, alors que la loi parle de communauté d'agglomération à partir de 30 000 habitants. Il y a de grosses difficultés, effectivement, d'abord intrinsèquement dans la municipalité de Digne-les-Bains, où vraisemblablement des divergences existent, même si nous pensons tous, quels que soient les partis dont nous faisons partie au niveau municipal, que c'est cet avenir-là qui nous attend, d'abord parce que c'est l'optimisation en fait de nos moyens, c'est en même temps donc une vision et surtout un projet de territoire. Malheureusement, on ne s'y reconnaît pas et c'est sans doute pour cela qu'à l'intérieur même de l'intercommunalité, quand même, la CC3V, c'est assez éloquent, les autres communes ont voté contre le projet de communautés d'agglomération autour de Digne-les-Bains. C'est donc bien là que nous avons des problèmes qui sont sans doute liés aussi à un contexte malheureusement donc économique, puisque malheureusement il n'y a aucun projet économique sur l'agglomération, rien qui ne donne envie à d'autres communes de venir nous rejoindre. Et ça, c'est une évidence rare. Ensuite, il y a un problème de compétences. Les compétences sont diverses et il y a de grosses discussions à ce niveau-là. Et peut-être que le moment était un petit peu trop précoce, tout simplement parce qu'on n'avait pas entre communes diverses, puisque ça va jusqu'à la Palud-sur-Verdon, Moustier-Sainte-Marie, hein, c'est énorme en termes de géographie, le temps véritablement de confronter ses avis et de parler d'un véritable projet de territoire. La dernière chose, c'est la gouvernance. Et je crois que c'est là, quand on voit les difficultés de la majorité de Digne de s'entendre elle-même, à cause de cette diversité des Verts, des communistes, des socialistes, ex, nouveaux, etc. Eh bien, malheureusement, cela retentit sur l'absence donc de projet, de lisibilité. Et vu le nombre en fait de délégués qui sont proposés par rapport donc au nombre de délégués total, cela peut interroger beaucoup évidemment.
Alors, on parle aussi de Manosque, qui, donc, comme vous le disiez, a 60 000 habitants dans cette nouvelle intercommunalité, agglomération plutôt. Digne, s'il ne réagit pas et si on n'arrive pas à former cette grande agglomération du Pays dignois, est-ce que Manosque va pas, est-ce qu'on va pas cisailler le département en deux?
Mais je pense de toute façon que cet effet de différence tellement sensible entre les deux secteurs n'a pas attendu l'intercommunalité ou du moins la révision des collectivités territoriales pour la voir, pour la vivre et pour la subir quand on habite à Digne. C'est là encore toujours directement lié à cette absence en fait d'espoir. Ça n'est pas pour rien que nos entreprises nous quittent, parfois aux frontières même de notre commune. Ça n'est pas pour rien que notre population aussi est en train donc de subir une baisse très conséquente. Alors, c'est peut-être pour cela aussi, et je vais peut-être vous l'annoncer, qu'il y a un nouveau projet d'intercommunalité et qui ne serait plus une communauté d'agglomération puisque, selon le premier schéma proposé, on dépassait à peine les 30 000 habitants. Là, il s'agirait donc d'une intercommunalité un petit peu moins importante. Et nous aurions en l'occurrence, donc, puisqu'il y a un nouveau projet qui est étudié, cette fois-ci 58 délégués de l'intercommunalité qui iraient jusqu'à La Palue-sur-Verdon quand même et Moustier-Sainte-Marie, avec des exceptions par rapport donc au projet initial. Et la ville de Digne aurait sur 58 donc, délégués totaux de cette fameuse intercommunalité, 29 délégués.
D'accord. Donc ça, vous pensez que ça va se concrétiser quand? Parce que vous avez des échéances que la préfète impose, entre guillemets, suite aux directives gouvernementales. Ça va prendre...
Alors, les directives gouvernementales, donc, il y a eu quelques évolutions dernièrement au niveau national, puisque au niveau national, les personnes pensaient que ça allait un petit peu trop vite. Tout un chacun reconnaît de toute façon l'obligation de pouvoir réunir, mutualiser et essayer de fédérer donc, les communes entre elles, essayer de devenir donc beaucoup plus attractif pour reprendre un modèle européen. Pour autant, on ne peut pas forcer les gens à se marier et il faut leur laisser le temps de pouvoir dialoguer ensemble et de faire en sorte qu'ils puissent s'accorder. Et ça, c'est une excellente chose que le gouvernement ait décidé donc un moratoire. Bon. Il y a donc un moratoire et le 31 décembre donc 2012, qui était initialement la date prévue, sera uniquement donc pour les, je dirais, communes qui s'entendent d'ores et déjà sur le schéma qui leur a été proposé.
La dernière question en très peu de secondes. Aiglun fait toujours partie de rien. Est-ce que là, Aiglun va s'insérer dans ce nouveau projet-là? Est-ce qu'il sera obligé en tout cas?
Alors, par exemple, dans ce projet, vous avez Majastre. Majastre a 2 habitants. Sachez que Majastre aurait donc un délégué de moins que la ville d'Aiglun. Donc, je pense que ça va être déjà, en termes de gouvernance, une petite interrogation qu'il faudra lever assez rapidement, voyez-vous. Comme Chantercier, d'ailleurs. Donc,
oui,
le même nombre
aussi,
de d'habitants que Chantercier.
D'accord. Bon, on va passer au deuxième sujet, qui est donc le désenclavement. Alors, ce désenclavement, on parle du train, on parle d'une deux fois deux voies. On sent que la ville de Digne-les-Bains, et Serge Clohagen à sa tête, se sent un peu seule par rapport à tout le reste. Comment ça se présente, ce désenclavement de Digne actuellement? Est-ce qu'il y a des avancées depuis quelques mois?
Mais oui, il y a des avancées. Je tiens à vous dire que le groupe d'hiver droite avait décidé d'être une opposition, mais une opposition constructive. Et dès le départ, d'ailleurs, dès juillet 2008, vous voyez, donc au lendemain des élections, nous avions proposé à Serge Clohagen de pouvoir œuvrer et main dans la main pour ce fameux désenclavement. Malheureusement, la volonté de cette majorité n'a pas été cela. Nous avions été dans l'obligation, et nous avons compris très vite, qu'il fallait agir hors de la municipalité. Et c'est pour ça qu'il y a eu la création d'une association qui s'appelle l'APDR 04, quand nous avons entendu que, lors de la réunion qui parlait donc de la réouverture de la ligne Digne-Saint-Auban, que le simple aménagement de la route nationale, c'est-à-dire simplement avec un peu de peinture, je caricature peut-être, sur la route avec quelques bandes jaunes et un créneau de dépassement avec 2 giratoires, eh bien, serait, comment dirais-je, choisi par les élus locaux. Et nous nous sommes rendus compte que c'était Serge Clohagen qui avait négocié cela par rapport à la A585, c'est-à-dire l'autoroute qui était initialement prévue et dont on savait déjà pourtant officiellement depuis 2007 qu'elle ne se ferait pas. Donc beaucoup de temps perdu, effectivement. Alors quel a été le rôle? C'est tout simplement que nous disons que ce désenclavement routier, il est indispensable, il est de toute façon le vœu de la majorité des personnes. La Provence a fait notamment donc un sondage et 80% des personnes qui ont répondu à ce sondage ont dit qu'ils étaient pour l'aménagement de la route nationale 85 à deux voies avec déviation d'agglomération d'Aimé et de Malmoisson. Il faut savoir donc que dès qu'on a su que cette autoroute donc n'était plus du tout envisageable, mais certains attendaient que le gouvernement l'annonce officiellement. Nous, nous le savions depuis 2007. Ceci dit, nous avons dit à l'État, puisque vous avez dit que la meilleure des solutions, et c'est l'État qui le disait, est l'aménagement de la route nationale deux fois deux voies avec déviation d'agglomération, pas de problème, puisque vous ne faites pas l'autoroute, nous voulons cette solution alternative que vous avez qualifiée vous-même de meilleure. Dans un deuxième temps, nous avons fait une pétition. Cette pétition a remporté en l'espace de deux mois, qui s'appelait les naufragés de la route nationale 85, presque 5000 signatures. Donc ensuite, il y a eu création de cette association pour qu'il y ait une lisibilité. Le but étant surtout que la politique politicienne ne vienne pas s'emparer de, justement de ce désenclavement. Il n'en était pas question. C'est pour cela donc, que très rapidement, et grâce à la présence de personnes qui étaient d'horizons différents, de partis politiques différents, nous avons réussi à avoir des délibérations de l'Association des maires de France du département, donc tout parti politique confondu, la MRF nationale, l'Association des maires ruraux de France, 10 000 communes, et nous avons pour une fois eu la promotion de Digne-les-Bains sur le mensuel, donc de 36 000 communes, et Digne-les-Bains était en page de couverture avec notamment cette fameuse délibération. D'accord. Et c'est pour ça que nous avons été donc reçus auprès donc du ministre des Transports, qui nous a reçus d'ailleurs grâce à M. Daniel Spagnou, qui nous a obtenu ce rendez-vous, et Thierry Mariani a tenu sa parole. Nous avons eu donc, à partir de ce moment-là, une évolution, et de ce juste petit créneau de dépassement de rien du tout et de giratoire, nous sommes passés au principe d'une mise à deux fois de voie progressive. D'accord. De cette route
nationale.
Donc ça,
nationale. C'est acté maintenant.
Oui, puisque Madame la Préfète l'a annoncé officiellement lors de l'inauguration de la foire à la lavande.
D'accord.
Et il y a une première réunion qui va se tenir donc le 10 novembre et on va présenter justement aux élus, notamment donc le premier projet à minima dont, je vous le dis tout de suite, nous ne voulons en aucun cas. Monsieur Glohagen avait effectivement mis cela et il l'a caché jusqu'au dernier moment, puisque on disait en haut lieu que c'était avec l'accord des élus locaux. Et on s'est rendu compte très rapidement que ça n'était que celui de monsieur Glohagen et de sa majorité.
De sa majorité uniquement, d'accord.
Voilà.
Bon. Donc, on a une claire vision là-dessus. Sur ce désenclavement, pour vous, c'est important. C'est tout un ensemble,
vital.
Quelque part, la communauté d'agglomération avec le désenclavement, c'est un tout, quelque part.
C'est vital. Je suis une ancienne élue du Carrefour Bléone-Durance, donc de la CCMD, cette autre intercommunalité. C'est un lien avec notamment cette colonne vertébrale de la A51. C'est un lien vers le pays niçois. C'est le désenclavement et c'est le premier maillon de ce désenclavement, notamment vers le pays niçois, le sud-est du département. Ça n'est pas un problème d'Ignaudinois, loin s'en faut, mais bel et bien l'espoir de développement est aussi bien touristique que dans tous les niveaux. Il est incontournable et appelé de nos voeux depuis déjà des décennies. Nous avons obtenu, grâce à ce consensus, tout parti confondu, des avancées qui sont sensibles. Et je ne comprends pas d'ailleurs, je me permets de le dire, ou alors il y a réellement un grand problème, que puisque ce consensus s'est fait, puisqu'il recueille, je vous l'ai dit, notamment donc 80% des voix, notamment aussi en termes d'usagers, qu'ensuite et de tous les principaux décideurs, aussi bien politiques que économiques. La CCI aussi a voté pour. La délibération a été renouvelée puisqu'il y a eu une nouvelle présidente de la CCI, la Chambre de métiers et la Chambre d'agriculture. La FDSEA aussi, 04, s'est, prononcée pour. Donc il y a une unanimité ou une quasi-unanimité sur le terrain. Nous devons, parce que c'est vital, j'insiste là-dessus, si nous ne faisons pas ce désenclavement, c'est la mort de Digne. Si ça n'est pas effectivement l'élément essentiel pour un développement économique, si nous ne l'avons pas, de toute façon, c'est la mort de Digne et du sud-est du département.
Le poids de la ville de Digne dans ces décisions est-il important ou est-ce que c'est...
Eh bien, non, puisque je viens de vous l'expliquer. Voilà. Je viens de vous l'expliquer. Le consensus est énorme de l'autre côté. Oui, pardon.
Est-ce que la municipalité peut aller contre ce projet-là et faire en sorte de faire changer la donne.
Eh bien, écoutez, j'ai été heureuse quand même d'apprendre, il y a deux conseils municipaux, que M. Gloagen, qui était aussi interviewé sur une radio amie de RCF, qu'il ne voyait pas d'inconvénient à une deux fois deux voix. Je suis très heureuse de l'entendre et de l'avoir entendu. Bon. J'espère que maintenant, puisque c'était le seul qui... reculer, je veux bien qu'il y ait, comment dirais-je, de la part des Verts, une réticence, parce que, disons les choses telles qu'elles sont. Je suis une politique atypique, j'ai tendance à parler franc et vrai, et en l'occurrence, même si je peux comprendre que M. Gloagen soit un petit peu lié par cette forte proportion des Verts, ça n'est pas une raison, en fait, pour engager toute cette commune. Et puisqu'il a cette quasi-unanimité, et qu'il vient de dire qu'il ne voyait pas d'inconvénient, je pense que c'est excellent pour nous tous.
Donc c'est très bien pour l'avenir de Digne-les-Bains. Et le dernier sujet que nous allons aborder pour les 7 dernières minutes qui nous restent à passer ensemble, c'est les présidentielles. On a vécu il y a quelques jours les primaires où on a vu des candidats qui se sont présentés, dont le dernier est François Hollande, avec plus de 56% des voix. Qu'est-ce que vous pensez de ces primaires? Est-ce que vous pensez que c'est un vrai moyen de démocratie? Est-ce que le Parti Socialiste a vraiment fait preuve de démocratie? Ou est-ce que c'est du tape à l'œil pour...
Bien, je parlerai pas de tape à l'œil du moment qu'on demande l'avis effectivement des citoyens.
Ce qui est surprenant, c'est un euro. Moi, ça m'a peut-être surpris de payer pour aller.
Ça en a heurté plus d'un, et j'ai appris ce matin d'ailleurs que ça leur a permis d'avoir un bénéfice d'1,2 million d'euros.
Ça donc, payera la campagne.
C'est un bon coup en fait de pub et de promo. Pour autant, je pense pas que la démocratie, j'en suis même sûre, ait été réellement l'objectif premier de cela. En tout cas, on a entendu parler. Vous parliez du CSA tout à l'heure, effectivement. Monsieur Tripodi, a certainement de l'ordre à mettre là-dedans. Donc, moi, ce que j'en ai retenu tout simplement, c'est qu'ils avaient beaucoup de difficultés à se mettre d'accord.
Ouais.
Que l'on a maintenant un candidat officiellement déclaré, chic, on va pouvoir enfin parler, en fait, de programme et rentrer réellement dans la campagne. Mais cette fois-ci, de ne pas parler de personne, mais réellement d'idées et de programmes. Et j'avais la surprise d'entendre aussi M. Moscovici, invité de la matinale ce matin, avec difficulté, il est vrai, dire que le candidat François Hollande allait modifier quelque peu pourtant ce programme signé par tous, avant les primaires. Donc, ça va être un petit peu... particulier.
Voilà, tout à fait. On a encore 7 mois pour voir comment les choses vont évoluer. Alors vous, comment vous vous positionnez par rapport à la présidentielle de mai 2012, quelles sont vos directives? Alors, on va pas parler de directives de vote parce que c'est prématuré pour l'instant.
Et je ne me permettrai pas.
Quelles sont vos attentes des candidats ou du candidat que vous plébiscitez peut-être ou commencez à plébisciter actuellement?
Ah, je ne commence pas à plébisciter. Je vous l'ai dit, je suis une politique atypique. Alors certains, très frileusement, et puis très volontiers, je vous répondrai de façon très claire, très franche et très spontanée. Je n'attendrai pas le dernier moment que le candidat de la droite soit connu pour pouvoir dire quelle est ma préférence. Ma préférence, c'est celle de Nicolas Sarkozy, mais sans exclusive aucune, malgré donc tous ces sondages si négatifs qu'on veut bien lui accorder. Ceci étant, c'est grâce à lui, ne l'oublions pas, que la France s'est le mieux sortie de cette crise mondiale que nous connaissons, et il n'est qu'à voir justement l'homme d'État qu'il est devenu en tant que président du G20, cet élan, cette dynamique, cette initiative. L'homme solide, disait d'ailleurs notre Premier ministre François Fillon, et d'expérience qu'il est et qu'il démontre. Et même s'il y a eu, c'est vrai, des fautes en fait de communication en début, nul n'est parfait en ce bas monde. C'est quelqu'un sur lequel on peut compter. C'est quelqu'un qui est courageux, qui a mené donc des réformes qui ont été très mal connues. Et j'avoue que moi personnellement, j'ai du mal en fait à comprendre que chaque fois que l'on parle de faire des réformes, on l'assimile systématiquement dans ce pays à ce qu'on voudrait faire du mal aux Français. Bien évidemment, c'est le contraire. Et grâce à plusieurs d'entre elles, et nous aurons 7 mois, vous l'avez dit, pour pouvoir le démontrer, nous pourrons dire quels sont et bien expliquer ce qui n'a ce qui n'a pas été donc possible ces derniers temps, puisque nous avions une OPA à cause de ces fameuses primaires. Mais je peux vous assurer qu'on va le faire. Et je vais vous annoncer aussi une autre nouvelle. Cette nouvelle, c'est que je suis devenue, parce que l'on a fait l'honneur de me désigner, présidente du comité de soutien de Nicolas Sarkozy pour les Alpes de Haute-Provence. D'accord. Et à ce sujet, je tenais aussi peut-être à rétablir un bruit que l'on fait courir et qui est totalement faux. Celui d'une exclusion de l'UMP. Je n'ai jamais été exclue de l'UMP. Et mes camarades et mes collègues, notamment de la majorité dinoise, pourront continuer à m'appeler, puisqu'ils l'ont toujours fait, porte-parole de Nicolas Sarkozy. Mais ils auront une raison supplémentaire de le faire.
Alors, on parle aussi d'une surcommunication au démarrage de son mandat. On le sent maintenant peut-être un peu moins sur le devant de la scène. Pourquoi Nicolas Sarkozy ne se présente-t-il pas officiellement aujourd'hui à sa propre succession ? Pourquoi attend-il ? Peut-être se présentera-t-il ou pas ? Bon, on suppose que oui, mais pourquoi attend-il peut-être janvier ou février alors qu'il pourrait le faire maintenant ? Et est-ce que la droite va pouvoir, comme à la gauche, avoir vraiment un candidat potentiel et pas 50 ? Façon de parler, bien sûr, pour justement que les Français s'identifient à moins de personnes que ce qu'il y a. Là, actuellement, il y a 10 candidats avec tous les partis réunis, ce qui est énorme pour décortiquer tous les programmes. La droite va se positionner comment ? On sent les réactions d'ailleurs de Jean-François Copé très, très réactives par rapport au programme de la gauche. Ils vont d'ailleurs décortiquer ce programme-là.
Ils ont commencé déjà avec convention. Voilà. Oui. 255 milliards, évaluation pour les 5 ans.
D'accord. Alors comment ça va se passer là ? Est-ce que vous avez des infos sur cette éventuelle remandature de Nicolas Sarkozy ? Quand c'est qu'il va se présenter ? Comment ça se fait qu'il laisse le suspense jusqu'au bout ?
Eh bien, à mon sens, d'abord, le choix de la date lui appartient, c'est tout à fait normal. Mais c'est là aussi que l'on voit la dimension d'homme d'État, qui est celle de Nicolas Sarkozy. Et celle-là l'honore. Parce que justement, et on vient de le voir encore dernièrement, alors qu'il y a eu un heureux événement donc dans sa famille, tout simplement, et c'était donc entre deux rendez-vous, toujours pour être au service de l'État, au service des Français. C'est le président de la République, c'est le président de tous les Français. Et il fera connaître sa décision et sa candidature quand il le jugera opportun, c'est-à-dire quand les grands dossiers qui sont la priorité, et il le démontre et avec quelle efficacité, donc, seront traités.
Le mot de la fin, Marianne Boudu-Morel, qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous les auditeurs de notre station qui sont peut-être un peu déprimés, qui sont peut-être pas le moral, qui n'ont plus confiance aux politiques ? Quel message vous aimeriez leur donner pour qu'ils aient reconfiance en l'homme politique, quel qu'il soit ?
Eh bien écoutez, je crois que la confiance en l'homme, c'est aussi enfin des leitmotifs, parce que quand on est à RCF, je fais partie de la famille catholique, de la famille donc chrétienne, je puis vous dire que je trouve en elle, à chaque office, cette sérénité justement qui est nécessaire, parce que le monde politique est un monde extrêmement difficile, et le mot est peut-être même très nuancé, peut-être trop. Ceci étant, c'est grâce à cela et grâce à la foi, puisque notre pape Benoît XVI vient d'annoncer que c'était l'année justement de la foi. Il faut avoir foi en l'homme et dans les politiques comme dans d'autres catégories, et quelles que soient les catégories d'ailleurs, il y a toujours des bons et des moins bons. Et je ne veux pas qu'on soit de droite ou de gauche, quelques individus puissent jeter l'opprobre sur toute une catégorie. Et je puis vous assurer qu'il y a des gens qui sont sincères, il y a des gens qui se battent, il y en a qui n'ont même pas en fait d'émoluments. Je connais des petits maires qui forcent mon admiration, parce que sans rien, c'est un véritable sacerdoce, si je puis me permettre donc l'expression. Oui, j'ai confiance dans ce monde politique. Personnellement, je le fais bénévolement et je le fais avec toute la foi, l'énergie et la détermination, et notamment au niveau de tout notre département, et surtout dans le secteur dinois, c'est cette énergie-là qu'il faut, et c'est cela qui va nous permettre justement d'avancer. Oui, j'ai foi, y compris dans le monde politique, parce que la majeure partie de ces personnes-là sont des gens bien et qui se battent pour l'intérêt commun.
On peut reprendre aussi la thématique de la conférence qu'il y a eu il y a quelques jours sur Digne, avec le père Madeleine, jésuite, l'homme au cœur de nos missions, c'est un petit peu la priorité et l'engagement des hommes politiques, que l'homme soit au cœur de la mission, quelle qu'elle soit.
Ça devrait être l'engagement numéro un.
D'accord. Merci beaucoup, Marianne Baudu-Morel, d'avoir accepté notre invitation. N'hésitez pas à revenir nous voir. Pour, de toute manière, on vous réinvitera l'année prochaine pour lorsqu'on se présentera, on se rapprochera des présidentielles pour avoir votre avis sur d'autres sujets. On aurait pu aborder d'autres sujets, mais là, on ne peut pas. On aura l'occasion de vous retrouver en direct.
Merci de votre accueil et mon bonjour à tous les auditeurs.
Merci beaucoup. Très bonne journée sur RCF et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Bon, ben voilà.